Vous écoutez Cédric Despard sur Choc FM. Vous écoutez Cédric Despard sur Choc FM.
On est de retour en ce samedi 24 février 2024. C'est Cédric Ingrun pour Cédric du Sport sur Choc FM. Ouh là là, j'ai failli oublier mon micro. Alors, je vais l'ajuster. Je pense que là, la qualité va être un petit peu meilleure pour l'enregistrement. Et oui, bien sûr, on enregistre en ce jour, en ce samedi. On n'enregistre pas le samedi, on enregistre quelques heures avant. Pour cette émission de Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. En première heure, on avait parlé de soccer, évidemment, on était revenu sur la Coupe d'Afrique des Nations avec, on a appelé ça le miracle ivoirien là. Vous avez écouté la chronique sur Choc FM sans nous dans la République Podcast où on parle non seulement de la réussite économique de ce pays-là, mais aussi de la réussite sportive de leur équipe nationale de soccer, de leur équipe nationale de foot. Donc c'est à saluer, ça a été un bel événement, ça a été très très bien organisé. Il n'y a pas eu d'incident majeur, du moins à ma connaissance, à l'exception de l'affaire des billets qui étaient soi-disant revendus par des personnes avisées. Et ce qui fait qu'il y a eu... C'était le seul gros couac de cette compétition-là, mais pour le reste, c'est très très bien passé. En tout cas, félicitations encore à l'équipe des éléphants, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, et félicitations évidemment au peuple ivoirien. On a aussi parlé de la Ligue 1, de la Première Ligue anglaise. On a parlé aussi de la Liga Española, c'est comme ça que ça s'appelle hein, en Espagne. On a aussi parlé de la Liga Calcio, c'est comme ça que ça s'appelle en Italie. Et quoi d'autre dont on a parlé? Un petit peu de la Ligue, de la Ligue allemande, là, la Bundesliga, parce que là-bas, c'est un peu un psychodrame, puisque le Bayern... Et en ce moment, au moment où cette émission est enregistrée, n'est pas premier. Et ça faisait très très longtemps que ce n'était pas arrivé. Je pense que le Bayern est sur une série de 11 titres consécutifs dans le championnat allemand. Donc ce serait vraiment un événement s'il n'arriverait pas à être champion. À savoir que c'est une équipe qu'on connaît déjà, le Bayer Leverkusen, qui domine en ce moment la Ligue allemande. Allez, en cette deuxième partie de Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi, on va parler surtout des ligues nord-américaines parce que nous, on est au Choc FM, nous, on est installé à Toronto et on fait le focus sur les ligues nord-américaines. Je rappelle aussi qu'en première partie, on avait parlé d'une ligue nord-américaine, à savoir la MLS, donc la Major League Soccer, qui est le championnat nord-américain qui regroupe les équipes canadiennes et les équipes américaines. Alors, pour parler des ligues nord-américaines, on commence par la NHL, donc évidemment les classements. D'abord, on va commencer par la conférence Est pour les équipes qui sont placées à l'Est. Donc, Boston qui est en tête, 57 victoires, 34 défaites, 57 matchs, 34 victoires et 12 défaites en temps réglementaire et 11 défaites en prolongation. Suivre derrière, c'est la Florida, les Panthers, avec en 56 matchs, 37 victoires. La New York Rangers qui reste sur 8 matchs au moment où cette émission est enregistrée, 8 victoires consécutives, donc ils sont 3e à l'Est. La Caroline qui est 4e avec 33 victoires en 55 matchs, ça fait une belle saison hein, pour la Caroline, on ne s'attendait vraiment pas à ça. Les Maple Leafs juste suivent derrière l'équipe de Toronto avec 31 victoires en 55 matchs. Ensuite c'est Philadelphia, les Flyers avec 30 victoires en 57 matchs. Tampa Bay, les Lightning, qui étaient encore champions il y a 2 ans, je pense. Non, il y a 3 ans. Oui, ça fait déjà longtemps, là. C'est la saison du bubble. Donc, 30 victoires en 57 matchs après un début de saison très difficile. Détroit, qui réussit une saison assez remarquable parce qu'on sait que Détroit, ça fait plus de 10 ans qu'ils courent derrière leur gloire du passé. Et là, ils sont dans une saison, quelque sorte, de résurrection. 29 victoires en 55 matchs. Suivent ensuite... New Jersey, les Devils, New York, les Islanders, Washington, les Capitals, Pittsburgh, les Penguins. Les Penguins qui sont, bon, on sait qu'en début de saison, ils avaient fait vraiment de grosses acquisitions, notamment le défenseur Erik Karlsson, mais que c'est un défenseur qu'on sait très offensif. D'ailleurs, son différentiel on appelle ça le plus-minus, c'est qu'en fait, entre le temps qu'il a passé sur la glace et le temps où les équipes adverses score, son différentiel est négatif. Donc, pour un défenseur, ce n'est pas un très bon signe, mais ça reste que c'est un joueur très spectaculaire. Et il était venu de San Jose, les Sharks, et Pittsburgh avait décidé de le faire venir, mais comme Karlsson depuis plusieurs années, notamment depuis qu'il a quitté Ottawa, c'est les blessures qui s'accumulent. Et le noyau de l'équipe des Penguins, les Penguins, pardon, les Pittsburgh, c'est Sidney Crosby qui a maintenant 36 ans, je pense. Evgeny Malkin qui a plus une milieu trentaine aussi. Et tous ces autres joueurs-là, c'est très très compliqué pour eux. Et derrière eux, le gardien, je pense d'origine québécoise, Tristan Jarry, qui n'est pas très constant, ce qui fait que les Penguins sont en train de faire une saison plutôt mauvaise par leur standard. Parce que seulement 56 points en 53 matchs, ça fait à peine une moyenne de 1 point par match, ce n'est vraiment pas bon. Et comme preuve, juste derrière eux, c'est Buffalo, une équipe qui ne fonctionne pas bien depuis plusieurs années, et sur Montréal, qui est dans une spirale négative. Seulement 22 victoires en 56 matchs. Et les deux derniers dans la conférence, ce sont Ottawa, les Sénateurs, et Columbus, les Blue Jackets. Dont la conférence Ouest, c'est toujours Vancouver, les Canucks qui sont en tête. Ils sont tout simplement la meilleure équipe au moment où nous enregistrons là. La meilleure équipe dans la Ligue nationale de hockey actuellement, avec 80 points, donc 37 victoires en 58 matchs. Suit derrière Dallas, les Stars avec 34 victoires en 57 matchs. Colorado, ceux qui étaient champions encore il y a 2 ans, avec 74 points pour l'instant. Donc 35 victoires en 57 matchs. Ensuite, Winnipeg, les Jets, qui avaient réussi un début de saison tonitruant, mais qui depuis s'essouffle un petit peu, avec 34 victoires en 54 matchs. Vegas, les Golden Knights, les champions en titre. C'est une saison un peu plus difficile, mais ça reste que, ça va, ils s'en sortent plutôt pas mal, avec 32 victoires en 56 matchs. Edmonton, 33 victoires en 53 matchs. Edmonton qui avait été avant le All, la pause du All-Star Game, qui avait été sur une série de 16 victoires consécutives et qui depuis pioche un petit peu. Mais ça reste que voilà, c'est après avoir commencé la saison avec un résultat catastrophique, puisqu'ils étaient tout simplement la pire équipe de la Ligue nationale de hockey, ben, ils sont maintenant bien replacés pour les séries. Ce qui fait que bon, pour les playoffs, on dit à seulement à 6 points des places pour aller en playoffs. Los Angeles qui a essayé de survivre avec 28 victoires en 54 matchs. Et Saint-Louis, les Blues, qui sont sur ce qu'on appelle la ligne de flottaison. Donc, avec seulement 60 points, donc 29 victoires en 57 matchs. Maintenant, les tout derniers dans la conférence Ouest, ce sont Nashville, les Predators, Minnesota, le Wild, Seattle, le Kraken, Calgary, les Flames, qui décidément s'y s'en sortent pas, Arizona qui est sur une série de 10 défaites consécutives et qui en plus recevait chez eux mercredi soir l'enfant prodige Austin Matthews qui marquait son 50e but, donc j'ai bien dit 50e but de la saison. On a à peine 53 matchs, je pense. Donc, ils sont une saison tout feu, tout flamme. Mais ça reste que pour l'Arizona, bah, écoutez, déjà, c'est une équipe qui n'a pas son propre stade. Ils jouent dans le stade, je pense, d'une université. Ils ont seulement 5 000 places. Il faut se demander hein, quelles sont les motivations du commissionneur de la NHL, donc Gary Bettman. Pourquoi conserver une équipe en Arizona alors que le peuple d'Arizona a clairement montré depuis plusieurs années qu'ils ne sont pas intéressés à avoir une équipe professionnelle de hockey. Ils ne veulent pas voter pour avoir, pour investir, pour qu'ils aient un stade décent, digne de ce nom, pour une équipe professionnelle. Ils jouent quasiment sur des préfabriqués. C'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Il y a des équipes, je veux dire universitaires, qui ont des stades plus grands que l'équipe professionnelle d'Arizona actuellement. Ce n'est pas acceptable. La solution, ce serait tout simplement de déménager cette équipe-là ailleurs. Je sais qu'ici, dans la zone de Toronto, par exemple à Hamilton, je pense qu'il serait capable d'accueillir une équipe. À Markham, au nord de Toronto, il serait capable d'accueillir une équipe. À Québec, évidemment, dans la ville de Québec, il y a un stade qui est, bon, on est plutôt neuf, mais qui a seulement été construit il y a moins de 5 ans, je pense, et qui sera prêt à accueillir une équipe. Il faut se bouger, il faut faire quelque chose. On ne peut pas se permettre d'avoir une équipe qui est dans une situation non seulement économique, mais aussi sportive aussi misérable. Allez, Anaheim, les Ducks, qui sont parmi les derniers dans la conférence Ouest, et ça, c'est pas nouveau. San Jose, les Sharks, on le sait depuis longtemps. Et Chicago, du pauvre rookie Connor Bedard, ben voilà, en 57 matchs, seulement 15 victoires. Donc, c'est tout simplement les tout derniers de la Ligue nationale de hockey. On va dire un mot sur Auston Matthews qui réussit, ben, on l'a déjà dit là, très, 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 très grosse saison. Il est possiblement en voie de réussir l'une des plus grosses performances de cette année, des 15 dernières années au niveau des buts avec un total projeté de 70 buts en 80 matchs. Et là, il en est au moment où on enregistre à 51 buts en à peu près 55 matchs. Ce qui fait que, ben oui, il pourrait très très bien atteindre la barre symbolique des 70 buts. Ce serait fabuleux. Mais pour moi, personnellement, j'ai vu arriver Auston Matthews. Très grand joueur, ok? On est d'accord là-dessus. Mais, écoutez, d'ailleurs, son premier match, c'est à Ottawa. Et c'est comme un signe. Son tout premier match professionnel, ça se joue à l'extérieur, ça se joue à Ottawa. Il score 4 buts. Mais le résultat, c'est qu'après ces 4 buts, les Toronto Maple Leafs avaient quand même perdu. Donc, on ne va pas dire que c'est un gaspillage de talent, mais que c'est. Il n'est pas dans les conditions de gagner. Il est dans les conditions d'accomplir des stats personnels très, très intéressantes, mais pas dans les conditions pour remporter des trophées. Pour moi, je pense sincèrement que il peut continuer à cumuler les buts. OK? Réussir de grosses performances. La saison dernière, il était à 41 buts, je pense. Ce qui était une saison, d'après ses standards, plutôt basse. Mais si ça ne se traduit pas par une réussite lors du premier ou du deuxième tour, ça vaut rien, quoi. Ça vaut rien. C'est très, très beau d'avoir tous ces gros scores-là. Mais si ça permet pas au Toronto Maple Leafs de gagner, c'est pour moi, ça vaut rien. En tout cas, c'est mon avis sur les Toronto Maple Leafs. On va passer maintenant directement à la NBA. On va aller directement sur les classements. Ensuite, on va faire le gros format sur le All-Star Game. Donc, le match des étoiles qui a eu lieu il y a à peu près 8 jours. 8 jours ou un petit peu moins que ça. C'était à Indiana. Déjà, les classements. Dans la conférence, ben on va souvent par conférence, mais là on va aller directement les classements purs, donc pour les équipes qui sont possiblement qualifiées pour les playoffs au moment où cette émission est enregistrée. Donc dans la conférence Est, c'est Boston qui est en tête avec 43 victoires et seulement 12 défaites. Cleveland, 36 victoires, 17 défaites. Milwaukee, 3e, 35 victoires et 21 défaites. Depuis que Doc Rivers est arrivé, depuis qu'il a remplacé le coach Adrian Griffin, 3 victoires et 7 défaites. Donc, ils sont tout simplement au niveau de la plus mauvaise équipe de la ligue, c'est-à-dire Détroit. Doc Rivers, pour moi, il commence à être démasqué là. C'est pas possible. C'est pas possible de toujours. Il a eu des équipes quand même remarquables au cours des dernières années. À Orlando, oui, il apprenait le métier en tant que coach après avoir été joueur professionnel. Mais ensuite, aux Clippers, il avait une équipe de très haut niveau. Il n'est jamais arrivé en finale NBA. Il a eu aussi une équipe assez costaud à Philadelphia. Il s'est on va dire, pissé dessus à chaque fois lorsqu'il arrivait au match 7. Et encore une fois, pas de finale, même de finale de conférence. Et là, Milwaukee, ben, bis repetita, ça fonctionne pas. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des décisions fortes. Je ne pense pas qu'ils vont le faire partir, mais je ne pense pas que s'il n'arrive pas au minimum en finale de conférence à l'Est, que son séjour va s'éterniser à Milwaukee. Parce que ce n'est pas acceptable lorsque une équipe investit énormément sur un joueur comme Damian Lillard et sur la volonté de faire gagner un titre à Giannis Antetokounmpo, qui est probablement un joueur top 3 dans la Ligue nationale, dans la NBA actuellement. On ne peut pas se permettre d'avoir un Milan aussi mauvais. 3 victoires et 7 défaites, je le répète, depuis que Doc Rivers a pris les commandes des Milwaukee Bucks. Quatrième, c'est New York, 33 victoires, 22 défaites. Philadelphia suit ensuite, malgré la blessure maintenant confirmée pour une durée assez longue de Joel Embiid, 32 victoires, 22 défaites. Indiana est juste derrière avec 31 victoires et 25 défaites. Depuis que Pascal Siakam et Lyles avaient commencé par 3 défaites, je pense, pour commencer. Et puis, ça se stabilise un petit peu. Miami suit derrière, 30 victoires, 25 défaites. Orlando, 30 victoires, 25 défaites. Donc, parfaitement égalité avec Miami. Chicago suit juste derrière, 26 victoires, 29 défaites. Et Atlanta, 24 victoires et 31 défaites. Donc, déjà, rappelez que dans la formule actuelle, pour pouvoir se qualifier pour les playoffs de la NBA, ce sont le 6e, le 7e, le 8e, le 9e et le 10e. Donc, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e se battent pour ce qu'on appelle le play-in. Au moment où on enregistre, Miami qui est 7e, Orlando est 8e, Chicago est 9e et Atlanta est 10e. Brooklyn suit derrière avec 21 victoires, 33 défaites. Et ensuite, c'est Toronto, 19 victoires et 36 défaites. C'est vraiment la catastrophe, la saison des Raptors. Moi, je plains les fans des Raptors parce qu'ils nous avaient habitués depuis quoi, 6-7 ans maintenant à l'excellence. Et puis là, c'est clairement, on est maintenant aux deux tiers de la saison et c'est officiel. Les Toronto Raptors n'iront pas en playoff cette année encore. Ils n'iront même pas au play-in. Il faudra vraiment qu'ils enchaînent une série incroyable pour avoir une chance d'aller au play-in. Charlotte est 11e. Oui, c'est Charlotte, c'est ça? 11, non, 12e, pardon. 13 victoires, 41 défaites. Washington, 9 victoires, 45 défaites. Et les trois bons derniers de la ligue avec 8 victoires et 46 défaites. On enchaîne directement avec la conférence Ouest, avec Minnesota qui est en tête. Donc, meilleure équipe de toute la ligue, là, pour l'instant. 13 victoires, pardon, en 39 victoires et 56 défaites. Suivi par Oklahoma City, le Thunder, 37 victoires, 17 défaites. Los Angeles, les Clippers, avec 36 victoires, 17 défaites. Les Denver, les Nuggets, 36 victoires, 19 défaites. Phoenix, 33 victoires, 22 défaites. Et à l'égalité avec New Orleans, les Pelicans, avec 33 victoires, 26 défaites. Donc là, il s'agit du premier, deuxième jusqu'au sixième. Septième, donc, pour l'instant, placé pour le play-in. Dallas, les Mavs, avec 32 victoires, 23 défaites. Sacramento, 31 victoires, 23 défaites. Les Lakers, qui se replacent assez bien parce qu'à un moment, ils avaient un bilan négatif. Maintenant, c'est très, très positif, même avec 4 victoires de plus que des défaites. Donc, 30 victoires et 26 défaites. Et les Golden State Warriors, qui se rattrapent un petit peu, là, tranquillement. 27 victoires et 26 défaites. Ils sont actuellement 10e dans la conférence Ouest, donc la dernière place qualificative pour le play-in. Suivent ensuite pour la 11e, 12e, 13e et 14e et 15e place, ce sont successivement Utah, le Jazz, Houston, les Rockets, Memphis, les Grizzlies, mais on sait que pour eux, la saison est terminée. Ils jouent même des matchs avec beaucoup de remplaçants et des joueurs de G-League, Portland, les Trail Blazers, et enfin, San Antonio, les Spurs, du jeune prodige français Victor Wembanyama. D'ailleurs, Victor Wembanyama qui a signé, c'est devenu officiel là, pour devenir l'égérie de la marque française Louis Vuitton. Donc avec son 2m26, ou je ne sais pas, 2m24, ou je ne sais pas si c'est 2m30, ça va faire drôle de le voir balancer sa carcasse partout là pour des publicités, des défilés pour Louis Vuitton. Allez, on va maintenant sur le gros format. Le gros format, c'était ce qu'on a appelé le All-Star Game, donc ça avait eu lieu à Indiana, ça a eu lieu entre le jeudi et le dimanche de la semaine dernière. Il y avait d'abord le match des célébrités. Évidemment, moi, en tant qu'ancien joueur de basket, en tant que fan de basket, c'est quelque chose que je ne regarde pas. Le match des célébrités, ben oui, c'est simplement une opération marketing pour faire venir du beau monde, des anciennes célébrités, soit des gens, par exemple, c'est là que j'ai vu pour la première fois entendu parler d'un certain Kai Cenat. J'avais jamais vu entendu parler de lui avant. Apparemment, c'est un YouTuber qui a beaucoup d'énergie, qui, je sais pas de même de quoi il parle, mais a une personnalité sympathique, qui avait promis de marquer au moins 12 points, et puis il a fini avec 4 points. Bon, voilà quoi, c'est un YouTuber tout simplement, beaucoup de paroles, peu d'action. Quoi d'autre? Ben oui, j'ai pas regardé le match des célébrités tout simplement. Par contre, le vendredi, j'ai regardé ce qu'on appelait le Skills Challenge. Donc, en gros, on prend des jeunes joueurs. On leur fait faire des exercices, par exemple passer la balle à travers un cercle, des choses comme ça, avec des shoots à longue distance, à mi-distance. C'était pas mal spectaculaire, sauf que dans ce sens-là, les règles sont un peu confuses, c'est un peu embrouillé, en tout cas à mon avis, là. Et là, bon, on a vu que Victor Wembanyama n'était vraiment pas intéressé à faire quoi que ce soit pour cela. Donc, il a été éliminé très, très vite avec son équipe. Par contre, il y a une belle prestation des jeunes, le trio qui était formé de. Je le dis comme ça de mémoire. Il y avait Scottie Barnes des Toronto Raptors et comment il s'appelait le joueur de Philadelphie, Tyrese, Maxi Tyrese, et je ne me rappelle plus du troisième joueur. C'était pas mal. Et ils ont perdu en finale face au trio de Indiana, les Pacers, là dans lequel il y avait le Québécois, le Canadien Bénédicte Mathurin, le pivot de cette équipe-là, des Indiana Pacers, et bien sûr leur star montante, Star Mountain, j'oublie le nom, c'est incroyable que j'arrive à oublier ce nom. En tout cas, ils ont réussi une belle performance. Là aussi, encore, je disais, le concours de skills, c'était intéressant. Voilà, c'est Tyrese Haliburton qui a réussi, qui est dans le trio des Indiana Pacers. Là aussi, bon, je disais, assez intéressant comme spectacle, mais les règles sont très très confuses. Bon, toujours est-il qu'ils ont gagné, c'est tant mieux pour eux. Dans le match ensuite des ce qu'on appelait le NBA Rising Stars, là aussi c'était des petites formules avec des, je pense, des 5 par 5 ou 3 par 3. En tout cas, c'était confus vraiment comme règlement. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que. Non, c'était 5 par 5, voilà, effectivement. Par des mini-équipes dans des mini-matchs. Et là, le MVP, c'était le Canadien Bénédicte Mathurin. Il y a eu le concours de shoot ensuite, ça c'était le samedi. Et là, victoire de Damien Lillard. Donc, belle série comme ça. À ce titre-là, bon, je me suis demandé ce que certains faisaient là pour le concours de shoot. c'était vraiment étrange là. En tout cas, Damien Lillard l'a mérité, tout simplement, puisqu'il a réussi le meilleur total, avec une note notée la performance très intéressante, très 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 intéressante de Trae Young de Atlanta. Dans le concours, il y avait un autre concours comme ça, c'était la première fois qu'on voyait ça en NBA, de la toute première fois de l'histoire de la Ligue. C'était un concours spécial entre Chef Curry, donc Stephen Curry, et Sabrina Ionescu, donc la joueuse de WNBA. Et là, ça avait été intéressant, la formule, puisque elle jouait avec des balles de la WNBA, mais elle shootait de la ligne à 3 points des hommes, donc de la NBA. Donc ça donnait un concours très spectaculaire. Au finish, Sabrina Ionescu a mis, je pense, 26 paniers à 3 points, alors que Steph Curry en a réussi 31. Donc c'était même le plus grand total que celui de Damian Lillard. Ben, Steph Curry qui confirme qu'il est tout simplement le meilleur shooter de la planète. Et on espère que c'est une formule qui va se renouveler dans le futur, parce que clairement c'était spectaculaire. C'était beau de voir ça, un duel entre un homme et une femme. Je pense que dans l'histoire du sport professionnel, la dernière fois que c'est arrivé, je sais même pas, je pense, j'étais pas encore né, c'était un match de tennis entre Billie Jean King, et je ne me rappelle plus qui était son adversaire, mais en tout cas, c'est elle qui avait gagné. Mais dans ce sens-là, c'était une bonne chose, prouver encore une fois que les dames peuvent s'affirmer dans le basket professionnel. Ensuite, là où on a été déçu, c'était le concours de dunk. Et je pourrais dire tellement de choses là-dessus, tellement de choses là-dessus. Mais ce que je vais vous proposer pour les personnes qui écoutent cette émission de Cédric du Sport, c'est de me retrouver le samedi matin sur ma page Cédric EB. Je vais faire un live, donc un direct, où on va parler de qu'est-ce que la NBA doit faire pour reformer les formules, les concours dans le All-Star Game. Parce que le concours de dunk, ça a été atroce. Ça a été atroce parce qu'il y a notamment ce joueur-là, il s'appelle Jaylen Brown. Des Boston Celtics, qui lui a dit de venir? Qu'est-ce qui lui a pris? Il était catastrophique, il mettait des dunks, mais des dunks sans créativité. Oui, il mettait de la puissance, il mettait de la force, mais il a dunké par exemple sur le fameux Kai Cenat, là, le youtubeur, en lui disant de s'asseoir. Ok, le gars fait quoi? 1m45, tu lui dis de s'asseoir, donc en gros, tu sautes sur un nain. C'était quoi l'idée? Ensuite, apparemment, il aurait tenté de imiter le dunk d'un ancien joueur des Celtics de Boston qui s'appelait Dee Brown en se mettant la main sur le visage. Ok, il a dunké avec un bras et ensuite il a mis la main après le dunk pour se masquer le visage. Mais c'est quoi cette histoire? Mais le pire dunk, c'est quand, soi-disant, on l'aurait dit de lui qu'il ne peut pas jouer avec sa main gauche. Donc il a mis un gant qui ressemblait à celui de Michael Jackson. Il a mis ça sur sa main gauche et après. Il allait dunker. Mais c'était affreux. C'était affreux, c'était affreux. Pour moi, là, concours de dunk, si nous refaisons un concours de dunk comme ça, ce serait une insulte. Ce serait une insulte. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Et c'est vraiment le joueur de G-League, McClung, qui a sauvé le tout. C'était pas possible de voir ça. C'était affreux. C'était affreux. Écoutez, pour moi, c'est une insulte aux fans de faire quelque chose comme ça. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Mais le clou du spectacle. Bon, ok, McClung, vainqueur du concours de dunk, logiquement là, ok. Mais le clou, ça a été le match NBA de All-Star Game en lui-même. Donc, j'ai la feuille de match sous les yeux. Victoire de l'Est 211 à 186. Ça, c'était le dimanche, le 18 février. Dans l'histoire du basket professionnel américain, il n'y avait jamais une équipe qui avait scoré plus de 200 points. Mais il n'y avait pas de défense. Il n'y avait pas de consigne de jeu. Il y a eu 168 shoots à 3 points. Et là, j'ai la feuille de stats là sous les yeux. Vous voyez? Il y a, dans ce match-là, Karl Anthony Towns, 50 points en 28 minutes. Gilgeous Alexander, 31 points en 28 minutes. Kawhi a à peine joué. LeBron James a à peine joué. Jokic, il s'en foutait. 13 points en 23 minutes. Comment il s'appelle? Steph Curry, 16 points en 26 minutes. Quoi d'autre? Un joueur qui. Luka Doncic, 7 points en 23 minutes, notamment un shoot. Je vous dis là, c'était incroyable. Moi, j'ai trouvé que c'était insultant même de faire ça. Il a shooté, il était au milieu de son propre surface de jeu. En plein match, mais c'est pas possible de faire ça. C'est pas possible de faire ça. Et je vous montre les stats à l'ouest, à l'est, pardon. Antetokounmpo, 23 points en 23 matchs. Tatum, 20 points en 22 minutes. Bam Adebayo, seulement 3 points. Haliburton, un beau match là. Je pense qu'il a fait 10 sur 14 à 3 points, et notamment 32 points pour le total en 22 minutes. Damian Lillard, très très spectaculaire. 37 points en 27 minutes, avec notamment deux shoots à 3 points du milieu de terrain. Ça, c'était beau aussi. Jaylen Brown aussi, un très gros match. 36 points en 22 minutes. Et à part ça, ben, les autres n'ont été que des passagers. Écoutez, il faut vraiment que la NBA change la formule de ce All-Star Game là. C'était pas possible de faire ça. Je suis vraiment, vraiment déçu. Je trouve que c'est insultant de faire ça. On va parler de ça dans le live qu'on va faire au cours du samedi. Samedi à partir de midi sur ma page Cédric EB. On va finir cette émission de Cédric d'Espoir avec les résultats, avec les statistiques individuelles. Vous savez que la NBA, c'est une ligue de statistiques. Donc, Embiid toujours premier chez les scoreurs. Deuxième, Doncic. Et troisième, Gilgeous Alexander. Au niveau des passeurs, c'est Haliburton, suivi par Trae Young et Luka Doncic. Au niveau des shooters à 3 points, c'est Curry toujours en tête, suivi par Doncic et Anfernee Simons. Au niveau des rebondeurs, c'est Sabonis, suivi par Gobert et Davis. Au niveau des contreurs, c'est Wembanyama, suivi par Kessler et Brook Lopez. Et au niveau des intercepteurs, c'est Gilgeous Alexander, suivi par Donovan Mitchell et DeAndre Fox. C'est sur ces statistiques individuelles qu'on conclut cette émission de Cédric du Sport, l'émission de sport de Choc FM que vous écoutez tous les samedis de 11h à midi. Je vous invite à nous rejoindre pour le live que nous allons faire sur ma page Cédric EB. On va parler de l'NBA, on va parler de Kylian Mbappé, puisqu'on n'en a pas beaucoup abordé dans la première partie de cette émission, son départ du PSG, et revenir sur les résultats et le psychodrame dont chez l'Olympique de Marseille. C'était un plaisir d'être avec vous. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, sur Choc FM, la radio 100% Toronto, 100% francophone. Restez avec nous et écoutez les émissions de Choc FM.